Bien, l'audience est ouverte avec un peu de retard pour lequel le tribunal vous prie de bien vouloir l'excuser. Bonjour à tous. Alors, la première chose, c'est que vous le savez sans doute, les dossiers qui ont été plaidés le 14 mai, donc pris en délibéré le 10 juin, vont être reportés au niveau du prononcé. En principe, on les prononcerait le 26 juillet, peut-être plus tôt. Si vous voulez assister au prononcé, peut-être prenez contact avec le greffe, avec Madame l'auditeur, ça on peut voir. Et donc on va prononcer l'ensemble des dossiers du 13 mai, pris en délibéré le 27-28. Alors il y en a 10, dont 2 connexes, donc 8. Je vous propose d'en lire un, le dossier de mouvement de M. Pelayo Jiménez, et puis la fin d'un autre qui est différent. Ils sont en gros tous similaires. Voilà. Bien, ben, allons-y. Commence. Et alors, pour les modalités pratiques, Monsieur le greffier a des copies des jugements dans tous les dossiers pour tous les avocats, une fois qu'on aura terminé. Bien, la décision attaquée, l'objet de la demande. La décision attaquée a été adoptée le 13 avril 2012 par l'ONEM. Celui-ci a décidé de refuser l'octroi des allocations de chômage à M. Pelayo Jiménez à compter du 2 janvier 2012. Ce refus était motivé par un nombre insuffisant de journées de travail ou de journées assimilées. M. Pelayo Jiménez demande la mise à néant de cette décision, qu'il soit dit pour droit qu'il avait droit aux allocations de chômage à partir du 2 janvier 2012 et que l'ONEM soit condamné à lui payer ses allocations. À titre subsidiaire, M. Pelayo Jiménez demande la condamnation de l'ONEM à lui payer des dommages et intérêts équivalents à ce qu'il aurait dû percevoir à titre d'allocation de chômage s'il avait pu bénéficier de la règle du cachet. Il demande également les dépens. La position des parties. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas encore très intéressant. La position des parties, la position de M. Pelayo Jiménez. M. Pelayo Jiménez considère qu'il aurait dû bénéficier de la règle du cachet énoncée à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, de sorte que ses prestations de travail auraient dû lui ouvrir le droit aux allocations de chômage. Il fait valoir, à titre liminaire, que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée, en ce qu'elle ne permet pas de comprendre pour quel motif devrait être écartée la prise en considération de ses prestations de travail. M. Pelayo Jiménez explique la portée de la règle du cachet énoncée à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Il explique que les notions d'artiste musicien et d'artiste de spectacle qu'elle emploie ne sont pas définies. Il indique que l'ONEM a admis durant des années que ces notions englobaient également les techniciens du spectacle, tout comme certains créateurs actifs dans le domaine du spectacle. Cette solution était logique puisque tous travaillent ensemble et dans des conditions comparables. Il était également cohérent de traiter de la même manière toutes les personnes actives dans un même secteur. M. Pelayo Jiménez explique que l'ONEM a revu sa position du jour au lendemain par des circulaires d'octobre et de décembre 2011, limitant désormais drastiquement le champ d'application de la règle et excluant de nombreux artistes du régime du chômage. Il est ensuite revenu pour partie sur cette position par une circulaire de 2012, tenant notamment compte d'un avis rendu en juillet 2012 par le Conseil national du travail. En fait, M. Pelayo Jiménez expose que ses prestations démontrées lui ouvriraient le droit aux allocations de chômage si la règle du cachet lui était correctement appliquée. S'agissant des motifs du refus de lui appliquer cette règle, M. Pelayo Jiménez considère qu'ils ne sont pas admissibles. D'une part, la position de l'ONEM s'appuie sur des circulaires illégales puisqu'elles comportent des distinctions que la réglementation ne prévoit pas. Ces circulaires ne peuvent donc pas être appliquées. D'autre part, l'interprétation retenue par l'ONEM est contraire à la Constitution, et spécialement à son article 23 et à son effet de standstill qui fait obstacle à la régression en matière de droits sociaux. Il s'agit également d'une discrimination sur base de la fonction. M. Pelayo Jiménez souligne que l'ONEM a lui-même reconnu le caractère inacceptable de sa position puisqu'il a adopté une nouvelle circulaire en 2012 réintégrant les artistes créateurs du spectacle dans le champ de la règle du cachet. Subsidiairement, M. Pelayo Jiménez indique que le fait pour l'ONEM d'avoir appliqué largement la règle du cachet durant de nombreuses années a créé une légitime confiance en ce sens dans le chef des usagers du régime d'assurance chômage. Son revirement, qui a trompé cette légitime confiance, est constitutif d'une faute. Cette faute lui a causé un préjudice évaluable par équivalent aux allocations de chômage auxquelles il aurait pu prétendre dans l'interprétation antérieure de la règle. En termes de réplique à l'avis de Madame l'auditeur du travail, M. Pelayo Jiménez fait valoir que, si l'on admet que l'ONEM se devait de corriger sa pratique antérieure, il n'en reste pas moins que c'est celle-ci qui était alors fautive et engage sa responsabilité. L'ONEM aurait également nécessairement donné des informations inexactes, mais connaissant son devoir d'information et de renseignement. La position de l'ONEM. L'ONEM maintient le point de vue exprimé par la décision attaquée. Il indique que M. Pelayo Jiménez ne démontre pas un nombre de jours de travail suffisant pour ouvrir le droit aux allocations de chômage. L'ONEM considère que l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 n'est pas applicable à M. Pelayo Jiménez. Cette règle requiert en effet la réunion de plusieurs conditions, une occupation salariée comme artiste de spectacle ou artiste musicien et avec une rémunération à la prestation. Elle ne s'applique donc pas aux artistes hors du secteur du spectacle, même payés à la prestation, ni aux techniciens du spectacle. L'ONEM souligne que cette règle dérogatoire doit être interprétée de manière restrictive. Il fait valoir que les prestations de M. Pelayo Jiménez ne sont pas celles d'un artiste, mais celles d'un technicien, accessoiriste et technicien de théâtre, certes dans le domaine du spectacle. À titre de réplique à l'avis de Mme l'auditeur du travail, l'ONEM rappelle que les règles en matière de chômage sont d'ordre public et donc d'interprétation stricte. Il fait valoir que la notion d'activité artistique doit s'entendre par référence à la définition qu'en donne l'article 27 dixièmement de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sans référence à d'autres textes légaux ou réglementaires. Par ailleurs, même les artistes, musiciens ou de spectacle n'ont pas un droit inconditionnel à l'application de la règle du cachet. Celle-ci ne vise que les cas de rémunération à la prestation, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible de connaître le régime de travail et le montant horaire ou journalier de la rémunération. Or, M. Pelayo Jiménez, comme bien d'autres techniciens, n'était pas rémunéré au cachet. Enfin, l'ONEM conteste la discrimination invoquée entre artistes de spectacle et techniciens du spectacle ou de spectacle. Ces derniers ne sont en effet pas rémunérés forfaitairement à la prestation, mais à l'heure ou à la journée. Il ne s'agit donc pas de catégories comparables où il existe en tout cas un motif à la différence de traitement incriminé. Si même une discrimination devait être mise en évidence, il n'appartiendrait pas aux juridictions du travail de la combler elle-même. Elle ne pourrait qu'écarter l'application de décisions illégales. L'avis de Madame l'auditeur du travail. Madame l'auditeur du travail, abordant la question du champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, relève qu'il vise, outre les artistes musiciens, tous les artistes, créateurs comme interprètes, actifs dans le secteur du spectacle, mais pas les techniciens du spectacle. Si l'ONEM a donné de ce texte une interprétation plus large dans le passé, elle était contraire au texte et il ne peut être fait grief à l'ONEM de l'avoir abandonné. Madame l'auditeur du travail considère néanmoins que les techniciens du spectacle sont soumis à des conditions de travail largement similaires à celles des artistes du spectacle, même insécurité d'emploi, même rémunération forfaitaire, même conditions de travail. Il en résulte la même difficulté que les artistes du spectacle à obtenir l'admissibilité aux allocations de chômage sans le recours à la règle du cachet. Ils sont du reste traités de manière similaire dans la loi du 24 juillet 87 sur le travail temporaire et intérimaire. Elle déduit de ces constats une différence de traitement injustifiée découlant de la lacune consistant à n'avoir pas visé les techniciens du spectacle dans le champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel. Cette lacune intrinsèque est autoréparatrice, de sorte qu'elle peut être comblée par le tribunal en considérant que l'article 10 de l'arrêté ministériel doit également s'appliquer aux techniciens du spectacle. Il en résulte que la demande de M. Pelayo Jiménez devrait être déclarée fondée, pour autant que ses décomptes de prestations soient jugés suffisamment probants. Bien. La décision du tribunal. Remarque générale. Avant l'examen du litige proprement dit, le tribunal entend faire quelques remarques préliminaires. La première de ces remarques a trait au caractère collectif du litige. D'une part parce qu'il s'inscrit dans une problématique globale, celle de la place des artistes ou des travailleurs du secteur de la culture au sein des systèmes de sécurité sociale belges et peut-être au sein de notre société. D'autre part parce que le litige procède incontestablement d'une politique d'ensemble menée par l'ONEM à l'égard des artistes, qui a eu pour conséquence d'affecter la situation d'un grand nombre d'entre eux et de générer une grande quantité de contestations. Il va notamment en découler une approche du litige, une désignation des parties et un examen de leurs arguments, sans doute moins individualisés que dans un dossier ordinaire, selon le tribunal demande aux parties de bien vouloir l'excuser. La seconde remarque, qui peut paraître contredire la première, est que le présent litige, nonobstant sa vaste toile de fond, conserve un objet relativement limité, celui de savoir s'il faut appliquer à la partie demanderesse, et le cas échéant comment, l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'aborder ici ou d'épuiser toutes les questions, ni juridiques, ni à plus forte raison politique ou idéologique, liées au statut social des artistes. Il s'agit encore moins de juger ce qui aurait dû ou devrait être fait par les autorités publiques en la matière. Le tribunal, dont le rôle est de trancher les litiges selon le droit, s'en tient donc à l'état de ce dernier. Dit autrement encore, si pour les parties il s'agit d'un procès politique, le présent jugement ne l'est pas. Les parties se sont toutes exprimées longuement à l'audience sur le caractère excessivement technique et peu lisible de la réglementation du chômage, ou encore sur les constats regrettables qu'elle est excessivement changeante et exclusivement déterminée par la voie de texte réglementaire, voire de circulaire administrative. Ce phénomène n'est pas neuf, il a déjà été mis en évidence de manière nette par la littérature, juridique ou non. Je vous renvoie aux citations qui figurent au jugement. Comme les parties, le tribunal est contraint de s'accommoder de cet état de fait. Les arguments tirés de l'insuffisance de la motivation formelle de la décision litigieuse.
La loi du 29 juillet 91 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que ceux-ci soient motivés, que leur motivation consiste en l'indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et que cette motivation soit adéquate. Les litiges en matière de sécurité sociale, hormis ceux portant sur des sanctions administratives ou qui s'ouvrent par des décisions de nature discrétionnaire, ont pour objet un droit subjectif de nature politique, c'est-à-dire le droit à la prestation sociale en cause pour une période donnée. Il s'agit donc d'un contentieux subjectif portant sur un droit et non objectif, c'est-à-dire dirigé contre un acte. Il en découle que l'appréciation des juridictions du travail dans ce cadre n'est pas limitée à la validité de la décision administrative attaquée. Les juridictions ont en effet l'obligation, en cas de constat d'illégalité de cette décision, de substituer leur appréciation du droit subjectif en cause à celle de l'administration, faisant ainsi ce que cette dernière eut dû faire en examinant toutes les conditions d'octroi de ce droit, en ce compris celles non abordées par la décision, sous la seule réserve des droits de la défense et du principe dispositif. Par conséquent, les obligations formelles ou procédurales telles que celles de motivation imposées aux institutions chargées de l'octroi des prestations sont dépourvues de sanctions effectives puisque le constat de leur violation reste sans conséquence pour l'assuré social concerné, à tout le moins sous l'angle du droit subjectif en cause. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, les contestations soulevées quant à la régularité formelle de la décision attaquée restent sans conséquence sur l'octroi éventuel du droit aux allocations de chômage postulé par la partie demanderesse. Ces contestations sont donc sans pertinence et peuvent ne pas être examinées. Le nouveau statut des artistes, entre guillemets. La loi programme du 24 décembre 2002 introduit par ses articles 170 et suivants ce qui a été qualifié alors de nouveau statut des artistes. L'innovation principale de ce nouveau statut consiste dans l'introduction d'un article 1er bis dans la loi du 27 juin 69 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 44 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ce texte a pour effet et pour but d'étendre l'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés à tous les artistes travaillant sur commande, même sans être liés par un contrat de travail, hormis certaines exceptions particulières, et sauf demande en sens contraire formée par l'artiste auprès de la commission artiste, instituée par l'article 172 de la même loi. L'article 1er bis de la loi du 27 juin 69 règle ainsi désormais la question de savoir quelles étaient les limites exactes de la notion d'artiste de spectacle à laquelle recourait l'ancien article 3, deuxième mot de l'arrêté du 28 novembre 69, de même que les problèmes liés au caractère irréfragable de la présomption ou de l'extension de l'assujettissement qu'il comportait. Plus largement, ces deux textes visaient à régler la question récurrente de savoir si les artistes ou certains d'entre eux devaient être considérés et à quelles conditions comme engagés dans les liens des rapports de subordination. L'activité artistique au sens du paragraphe 2 de ce texte, plus exactement la fourniture de prestations artistiques ou la production d'œuvres artistiques, est définie d'une manière très similaire à celle retenue par l'article 27, dixième mot de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991. L'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, c'est-à-dire le texte dont l'application est demandée, est libellé comme suit. Pour l'artiste musicien et l'artiste du spectacle, une prestation journalière de moins de 5h77 est prise en considération comme une journée de travail si la rémunération perçue est au moins égale à 1/26 de 772,51 € pour l'artiste de moins de 21 ans, 575 € pour l'artiste de moins de 21 ans et 772 pour l'artiste âgé de 21 ans au moins. Le champ d'application de l'article 10 de l'arrêté du 26 novembre 1991. La principale question en litige est celle de savoir quels sont les travailleurs visés par l'article 10 de l'arrêté ministériel. À cet égard, le libellé du texte apparaît clair. Sont visés les artistes musiciens et les artistes du spectacle, ce nécessairement à l'exclusion de toutes les autres catégories de travailleurs. Il en découle que les artistes autres que musiciens ou du spectacle, la première catégorie étant du reste vraisemblablement incluse en totalité dans la seconde, ne sont pas concernés par ce texte. Il en va de même des travailleurs du secteur du spectacle autres que les artistes. Doctrine et jurisprudence sont du reste fixées en ce sens et s'interrogent notamment, s'agissant des techniciens du spectacle, sur le caractère prépondérant ou non du versant artistique plutôt que technique de leur tâche. La circonstance que la position ou la pratique de l'ONEM ait pu être différente dans le passé ne modifie pas l'interprétation de ce texte clair. À cet égard, peuvent être relevés les éléments suivants. Le principe général du droit de la hiérarchie des normes, dont l'article 159 de la Constitution est une illustration, fait obstacle à ce qu'une circulaire ou une instruction administrative, voire une simple pratique, modifie le contenu d'un texte même réglementaire de valeur supérieure. Par ailleurs, les principes généraux de bonne administration, de légitime confiance ou encore patere legem quam ipse fecisti ne permettent pas d'imposer à l'administration de maintenir dans l'avenir une pratique manifestement contraire au texte, fût-il exclusivement réglementaire. Premièrement, parce qu'il est de bonne administration de mettre fin dans l'avenir à ses erreurs ou errements passés, il est de mauvaise administration de s'y enferrer. Il pourrait peut-être en aller autrement si l'administration entend revenir pour le passé sur la situation qu'elle a créée, et il n'est pas exclu qu'une faute de l'administration puisse être mise en évidence, mais ces questions sont sans pertinence à ce stade du raisonnement, qui est celui de déterminer le champ d'application futur, après la décision administrative, du texte. Deuxièmement, la légitime confiance, si elle a un contenu distinct de la bonne administration, peut difficilement naître d'une pratique administrative à l'évidence contraire au texte réglementaire. Troisièmement, le principe pater legem quam ipse fecisti, qui est celui selon lequel une autorité est tenue par ses propres règlements réguliers et ne peut y apporter de dérogation dans les cas individuels, n'est pas non plus d'application. Il suppose en effet un règlement régulier qui est notoirement absent en l'espèce, s'agissant d'une part d'une simple pratique, si les parties la reconnaissent, aucune circulaire formelle dont elle résulterait n'est déposée, et d'autre part d'une pratique contraire au texte de l'arrêté ministériel. Par ailleurs, le principe de standstill ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Ce principe est défini comme l'interdiction faite au législateur de réduire le niveau de protection des droits garantis par une disposition constitutionnelle ou internationale par rapport à celui existant dans l'ordre juridique avant l'adoption d'une norme nouvelle. Il paraît cependant difficilement applicable à la modification d'une simple pratique administrative, à plus forte raison lorsqu'elle est contraire au texte qu'elle applique. Doctrine et jurisprudence sont du reste fixées en ce sens. Ainsi, à titre d'exemple, et dans un cas portant précisément sur l'interprétation de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, non en ce qui concerne son champ d'application, mais plutôt le calcul qu'il impose, la Cour du travail de Liège a fait application de ses règles et s'est exprimée comme suit. Je vous renvoie à la citation qui est au jugement. L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, déposé par Madame l'auditeur en annexe à son avis, adopte toujours au sujet de l'article 10 en cause exactement le même point de vue. Par contre, la distinction qui a été avancée par l'ONEM entre les artistes de spectacle, interprètes et créateurs n'est absolument pas accréditée par les termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel. Elle ne repose sur aucun autre élément. Par conséquent, ces deux catégories d'artistes, pour autant qu'ils soient musiciens ou de spectacle, peuvent se prévaloir de l'article 10. Les dernières instructions de l'ONEM sont du reste fixées en ce sens. Le caractère discriminatoire du champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991. La question s'est posée au cours des débats, spécialement à l'initiative de Madame l'auditeur du travail, de savoir si l'article 10, tel que son champ d'application vient d'être circonscrit, n'est pas, du fait même de cette limitation, discriminatoire, c'est-à-dire contraire aux prescrits des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties ont été interpellées à l'audience sur cette question. Cette discrimination potentielle consiste en particulier en ce que, parmi les travailleurs du secteur du spectacle, seuls les artistes entrent dans le champ du même texte, à l'exclusion des techniciens du spectacle. S'agissant d'une discrimination potentiellement contenue dans un texte réglementaire, il appartient au tribunal, en application de l'article 159 de la Constitution, de l'examiner lui-même, selon les mêmes critères que ceux traditionnellement énoncés par la Cour constitutionnelle et, le cas échéant, de refuser l'application du texte réglementaire inconstitutionnel. Les deux catégories de travailleurs envisagées par la différence de traitement en cause sont très proches. Il s'agit dans les deux cas de travailleurs exerçant une profession dans le secteur du spectacle, qui, s'il n'est pas défini de manière explicite, peut être appréhendé par référence tant au sens commun de ce terme que par renvoi à l'ancien article 3, deuxièmement, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui s'étendait l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés aux artistes de spectacle et les définissait par une énumération d'activités qui englobait les musiciens. Ces deux catégories sont donc comparables. Le critère de distinction entre ces deux catégories peut se déduire de la définition de l'activité artistique donnée par l'article 27, dixièmement, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Les artistes du spectacle sont les travailleurs du secteur du spectacle qui exercent une telle activité artistique. Les techniciens du spectacle sont les travailleurs du même secteur, n'exerçant pas une activité artistique, mais davantage une assistance technique aux travailleurs de la première catégorie. Bien qu'imprécis, susceptible d'interprétation et de générer des cas limites, le critère de distinction est objectif. S'agissant du but poursuivi par la distinction en cause, il ne résulte pas de manière très explicite de la manière dont elle est libellée. Interpellé à ce sujet, l'ONEM n'énonce pas clairement quel est ce but et pourquoi il justifierait de traiter différemment artistes du spectacle et techniciens du spectacle. Moins que par la protection contre l'intermittence, pour laquelle les techniciens se trouvent d'ailleurs placés dans une situation légèrement différente des artistes, puisqu'ils ont une possibilité plus large d'exercer leurs compétences en dehors du secteur culturel ou du spectacle, la règle énoncée par l'article 10 de l'arrêté du 26 novembre 1991 paraît davantage se justifier par l'impossibilité d'appliquer les règles ordinaires d'admissibilité à des travailleurs rémunérés non à l'heure ou au jour, encore moins au mois, mais de manière forfaitaire, sans lien avec une durée de prestation donnée, et pour des prestations parfois de courte durée, rendant illusoire la comptabilisation de journées entières de travail. C'est du reste ce même motif qui paraît inspirer les règles voisines de l'arrêté ministériel, bûcheron visé par l'article 11, et travailleurs à domicile payés à la tâche ou à la prestation, de l'article 12. C'est encore ce motif qu'avance l'ONEM en termes de réplique à l'avis de Madame l'auditeur du travail, indiquant en outre que les techniciens ne doivent pas se voir appliquer cette disposition au motif qu'ils ne sont pas payés au forfait ou au cachet. Envisagé sous cet angle, puisque les techniciens du spectacle travaillent dans le même secteur professionnel que les artistes du spectacle, à des conditions largement comparables, qu'ils sont parfois rémunérés au cachet, c'est-à-dire forfaitairement, la distinction introduite par l'article 10 de l'arrêté ministériel n'apparaît pas justifiée. La circonstance, avancée par l'ONEM, que les techniciens seraient moins fréquemment rémunérés au cachet, ne modifie pas ce constat. En effet, lorsqu'ils ne sont pas payés au cachet, l'article 10 ne leur est alors pas d'application, ce non en raison d'une exclusion a priori qu'il contiendrait, mais parce que la règle qu'il énonce ne semble en tout état de cause s'appliquer qu'aux seules prestations forfaitaires. Il en va du reste de même pour les artistes musiciens ou de spectacles payés autrement que de manière forfaitaire. Dès lors, la limitation aux artistes musiciens et de spectacle énoncée par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 apparaît non raisonnablement justifiée et donc discriminatoire en ce qu'elle exclut les techniciens du spectacle. Il s'agit d'une lacune du texte en cause. Cette lacune peut être qualifiée d'intrinsèque puisqu'elle se situe dans le texte lui-même et dans son caractère insuffisant ou incomplet, plutôt que dans l'absence d'une norme comparable, et que son constat est suffisamment précis pour que le texte puisse être appliqué sans devoir être complété ou précisé à la catégorie omise ou exclue. Elle peut donc, sans préjudice évidemment de l'intervention de l'auteur du texte, être comblée en interprétant le texte de manière à y inclure la catégorie qui en a été omise de manière contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Conclusion sur le champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel, et résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 va trouver à s'appliquer non seulement aux artistes musiciens et du spectacle, interprètes comme créateurs, mais encore aux techniciens du spectacle. L'application de l'article 10 à la partie de Mendresse. En l'espèce, M. Pelayo Jiménez exerce, selon les pièces figurant au dossier administratif de l'ONEM, des travaux d'électricien de théâtre et, plus rarement, d'accessoiriste. Il n'est pas contestable que ces prestations sont accomplies dans le secteur du spectacle, le plus souvent à la monnaie. Même si extrêmement peu d'éléments sont fournis quant au contenu effectif de son travail, le tribunal considère, sur la base de la seule qualification des fonctions, que leur volet technique est prédominant. M. Pelayo Jiménez est un technicien du spectacle plutôt qu'un artiste de spectacle. Compte tenu cependant des principes énoncés ci-avant, l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 lui est applicable. La portée de l'article 10 de l'arrêté ministériel, l'admissibilité de la partie de Mendresse. Cela étant, si l'article 10 de l'arrêté ministériel est applicable à la partie de Mendresse, il en reste que la manière dont cette disposition produit ses effets sur l'admissibilité au bénéfice des allocations de chômage reste discutable et susceptible de première interprétation. Le premier constat qui peut être fait le concernant est que ce texte, systématiquement qualifié de règle du cachet, n'aborde nullement de manière explicite la rémunération au cachet. Il n'est pas contestable que l'article 10 constitue, avec les autres dispositions qui l'entourent, un aménagement, dans le sens de l'assouplissement, aux règles ordinaires d'admissibilité sur la base du travail prévues par les articles 30 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et 7 et 8 de l'arrêté ministériel. La première règle, évidente, que comporte l'article 10 est celle qui concerne les prestations à temps partiel, plus particulièrement les prestations journalières d'une durée inférieure à 5h77. Au lieu d'être converties en fraction de journée par comparaison avec le temps de travail de la personne de référence, comme le prévoit normalement l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté ministériel, ces prestations journalières réduites peuvent être comptées comme des journées entières, pour autant qu'elles donnent lieu à une rémunération supérieure au montant que prévoit le texte. Au-delà de cette première application de l'article 10, il paraît bien avoir été également appliqué, d'une manière analogique avec les règles des articles 11 et 12 de l'arrêté, pour la conversion en journée de travail de sommes perçues par les travailleurs rémunérés au cachet et dont l'horaire n'est pas connu. La rémunération obtenue par le travailleur est alors divisée par la rémunération journalière de référence de l'article 10 pour donner un nombre fictif de jours de prestation entrant en ligne de compte pour l'admissibilité. Se posent cependant à cet égard les questions suivantes, qui ont déjà donné lieu à quelques prises de position doctrinales et jurisprudentielles. Celle de savoir si ce texte, dont on rappelle qu'il ne dit rien du cachet, est bien inapplicable aux travailleurs non payés au cachet. Cette question est d'autant plus cruciale qu'un certain nombre de décomptes de prestations produits au tribunal paraissent englober, en leur appliquant la règle de l'article 10, des prestations non payées au cachet, c'est-à-dire à la prestation, mais rémunérées par référence à une durée d'occupation. Deuxième question, celle de savoir si ce texte est inapplicable aux travailleurs payés au cachet, mais dont l'horaire est connu et les journées supérieures à 5h77. La même remarque peut être faite que pour la question précédente. Troisième question, celle de savoir si le résultat obtenu peut être supérieur à 78 jours par trimestre ou au nombre de jours de la période calendrier de la période à laquelle se rapporte le contrat. A priori, cette possibilité est désormais reconnue par l'ONEM. Quatrième question, celle de savoir si les jours rémunérés au cachet peuvent être tous les jours de travail ou exclusivement les jours de répétition ou de représentation prouvée. Cette dernière interprétation semblant cependant incompatible avec le constat fait ci-dessus, que le texte s'applique au-delà des seuls artistes interprètes. Force est de constater que les parties ne se sont nullement exprimées sur ces questions et que la demanderesse n'explique nullement comment elle a réalisé le décompte de ses prestations dont elle prétend déduire qu'elles seraient admissibles aux allocations de chômage. L'ONEM a, à l'inverse, souhaité qu'il soit réservé à statuer sur les décomptes établis par la demanderesse. Il s'impose par conséquent d'ordonner la réouverture des débats pour ce faire, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu de réserver à statuer pour le surplus. Par ces motifs, le tribunal, statuant après un débat contradictoire, dit pour droit que la partie demanderesse, M. Pelayo Jiménez, entre dans le champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées ci-dessus, fixe les modalités. Ce qui était envisagé, c'est une date de réouverture des débats au 24 janvier 2014. Alors, j'attire votre attention sur deux choses. La première, c'est que cette date et le calendrier, le tribunal les a fixés arbitrairement ou tout seul. Si les parties veulent se mettre d'accord sur d'autres modalités, c'est parfaitement possible. Et on peut aussi envisager une autre date d'audience. La deuxième remarque que j'ai à faire, qui figure dans le jugement, c'est que s'il y a un appel de ce jugement, il est possible que cette réouverture du débat devienne sans objet ou prématurée. Donc, je vous invite à en tenir compte. Voilà pour M. Pelayo Jiménez. Je me propose de lire la fin du jugement de M. Jérôme, maintenant, qui est un peu différente.
Oui.
Oui, ça va, vous n'entendez pas très bien. Okay. Ok. Alors, pour M. Jérôme, je me propose de commencer à la 15e page du jugement, donc au moment où ça commence à être différent de tout ce qui concerne, tout ce qui est commun à l'ensemble des dossiers. Alors, l'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 à la partie demanderesse. Monsieur Jérôme s'indique être graphiste et web designer. Les pièces qu'il dépose et celles figurant au dossier administratif de l'ONEM confirment cette activité. Elle paraît avoir essentiellement trait à la création de logos, de sites internet, de chartes graphiques ou encore de... Sans que ce constat constitue un quelconque jugement de valeur sur sa personne ou son travail, il est difficile de considérer que le travail de M. Guéroms entre dans le champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 tel qu'il vient d'être appréhendé. M. Guéroms n'est pas musicien, son occupation ne relève pas ni comme artiste ni comme technicien du secteur ou du milieu du spectacle. Il ne s'agit pas d'une activité qui peut être incluse dans l'énumération qui était faite par l'ancien article 3 deuxièmement de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. Ou qui se rapprochait de celle qu'il énonçait. Cette activité ne relève pas non plus du sens commun du terme spectacle, à savoir celui d'une représentation ou d'un événement vivant ou enregistré offert au public. Madame l'auditeur a suggéré dans son avis que le caractère lacunaire de l'article 10 précité pouvait être envisagé de manière plus large encore qu'indiqué ci-dessus, pour y inclure tous les artistes, qu'ils relèvent ou non du milieu du spectacle, ce qui permettrait alors de viser M. Guéroms également. Le tribunal ne partage pas ce point de vue pour une raison plus fondamentale que celle de la discrimination évoquée par Madame l'auditeur. Il considère que l'activité de M. Guéroms, telle qu'elle est décrite, ce qui est sans doute une activité qui implique une certaine dose de créativité, qui donne lieu à des productions visuelles et qui requiert un certain talent, n'est pas une activité de création ou d'interprétation d'œuvres artistiques ou de fourniture de prestations artistiques. Dès lors que M. Guéroms n'est pas un artiste, au sens en tout cas qu'en donne l'article 27 dixièmement de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'extension à tous les artistes de l'article 10 de l'arrêté ministériel ne pourrait de toute manière lui bénéficier. M. Guéroms ne rentre donc pas dans le champ d'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991. Dès lors que sa demande d'allocation de chômage reposait sur ce postulat et qu'il ne remet pas en cause le calcul d'admissibilité établi par l'ONEM sans... Je vais recommencer. Dès lors que sa demande d'allocation de chômage reposait sur ce postulat et qu'il ne remet pas en cause le calcul d'admissibilité établi par l'ONEM sans lui appliquer l'article 10 précité, sa demande d'allocation de chômage est non fondée. La demande subsidiaire de dommages et intérêts. La demande de dommages et intérêts formée par M. Guéroms nécessite, en vertu de l'article 1382 du Code civil, qu'il établisse une faute de l'ONEM, un dommage et un lien causal entre ces deux éléments. Conformément à la théorie dite de l'équivalence des conditions, l'existence d'un lien causal suppose la démonstration certaine du fait que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas produit comme il s'est réalisé. À l'inverse, le lien causal est écarté lorsqu'il est constaté que, sans la faute, le dommage se serait tout de même produit de la même manière. La première faute invoquée par M. Guéroms consisterait dans le brusque revirement de l'ONEM après avoir appliqué l'article 10 de l'arrêté ministériel de manière très souple pendant une très longue période, trompant de la sorte ses attentes et sa confiance légitime. Ce revirement de position n'est pas contesté en tant que tel. S'agissant de son caractère fautif, il doit être relevé ce qui suit. Comme il a déjà été indiqué, et sous réserve des développements qui ont été faits au sujet du caractère lacunaire de l'arrêté ministériel, mais qui ne concerne pas M. Guéroms puisqu'il ne relève pas du secteur du spectacle, l'interprétation nouvelle de l'ONEM doit être confirmée, alors que sa pratique antérieure n'était pas conforme au texte de l'article 10 de l'arrêté du 26 novembre 1991. Le seul fait de mettre fin à une pratique non conforme au texte légal ou réglementaire pour en adopter une interprétation exacte n'est pas en lui-même fautif. Dans l'appréciation de la question de savoir si les attentes légitimes de M. Guéroms ont été trompées, il convient de tenir compte du fait que le revirement de l'ONEM n'a pas eu pour conséquence le retrait d'un avantage déjà acquis, voire un retrait avec un effet rétroactif impliquant un remboursement, mais exclusivement le refus d'un avantage espéré. Ce premier constat amène à limiter la portée des atteintes que M. Guéroms pouvait fonder à l'égard de l'ONEM. En outre, et plus fondamentalement, le tribunal relève que le caractère d'évidence contraire au texte de l'arrêté ministériel de la pratique de l'ONEM empêchait, à tout le moins dans une hypothèse comme celle de M. Guéroms, qu'il puisse avoir de réelles attentes quant à l'application de l'article 10 de l'arrêté ministériel à sa situation. Il ne peut être admis qu'il ait été cru ou que l'on ait fait croire, de manière sérieuse et sincère, qu'un travailleur exerçant la profession de graphiste ou de web designer pouvait relever d'un texte applicable aux artistes musiciens et artistes de spectacle. Il n'est d'ailleurs pas démontré que la pratique antérieure de l'ONEM ait été la profession de travailleur exerçant de telles professions. Dit autrement, soit M. Guéroms s'était mal informé sur la question, ce qui l'empêchait de pouvoir fonder des expectatives sérieuses, soit il l'était et il devait avoir conscience qu'un risque existait que l'application de la règle du cachet lui soit refusée. À défaut d'une attente légitime dans le chef de M. Guéroms, le NEM n'a pas commis de faute en la déjouant. La deuxième faute invoquée par M. Guéroms, en termes de réplique à l'avis de Mme l'auditeur, consisterait à avoir appliqué par le passé l'article 10 de l'arrêté ministériel de manière trop souple et non conforme à son texte. Ici encore, la réalité du revirement de position de l'ONEM n'est pas contestable. Le tribunal a considéré et confirme cette appréciation que l'interprétation ancienne de l'ONEM n'était pas compatible avec les termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel. Elle était fautive. Il n'en reste pas moins que cette faute de l'ONEM est sans lien causal avec le dommage invoqué par M. Guéroms, qui est le refus d'allocation de chômage suite à sa demande du 2 janvier 2012. Si l'ONEM avait toujours appliqué l'interprétation exacte et stricte du texte, c'est-à-dire si aucune faute n'avait été commise, M. Guéroms se serait vu refuser les allocations de chômage rigoureusement de la même manière. Dit autrement, le refus des allocations à M. Guéroms ne résulte pas de l'interprétation ancienne fautive, mais découle exclusivement de l'interprétation nouvelle et correcte du texte. Le lien causal entre le dommage allégué et la deuxième faute invoquée fait donc défaut. Compte tenu de ce qui précède, la demande subsidiaire de dommages et intérêts n'est pas fondée. Une nouvelle fois, le tribunal tient à insister sur le fait que ce constat ne comporte aucune appréciation négative ou péjorative quant à M. Guéroms, aux personnes se trouvant dans leur situation ou à leur travail, toutes parfaitement dignes de respect. Par ces motifs, le tribunal, statuant après un débat contradictoire, dit la demande non fondée et en déboute M. Guéroms, délaisse à l'ONEM ses propres dépens et le condamne aux dépens de M. Guéroms. Voilà. Vous pouvez sortir vos copies.